Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir la première de nos cinq rencontres autour des nouvelles du vivant. Quelle nouvelle du vivant ? Le vivant, ça n'est pas seulement notre condition objective, ça n'est même pas seulement une suite de dates que nous vivons. C'est d'abord la manière dont nous vivons nos vies, la manière dont nous les ressentons, dont nous les exprimons, dont nous les partageons, dont elles s'ouvrent sur d'autres vies. Et ce soir, notre première rencontre pour parler de ces nouvelles du vivant sera avec Valérie Zenati, écrivaine, traductrice et scénariste qui vient de publier « Dans le faisceau des vivants » aux éditions de l'Olivier. Bonsoir Valérie Zenati.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci d'être venu ce soir parler du vivant.
Merci pour cette invitation.
Je me disais que vous vous reconnaîtriez peut-être dans la manière dont j'ai présenté le thème. Parce que le vivant, qui n'est pas seulement un fait objectif, qui est une manière subjective d'expérimenter sa vie, de l'exprimer, de la raconter, qui ouvre sur d'autres vies. C'est au cœur, il me semble, du livre que vous venez de publier, Dans le faisceau des vivants, qui est à la fois déjà encore, pourrait-on dire, l'histoire d'une vie, celle d'Aaron Appelfeld, qui est au cœur de ce livre, mais qui est en même temps l'histoire de son œuvre, d'une rencontre avec elle, et un peu quand même aussi de son ouverture sur votre vie, et c'est pleinement un livre de vous. Donc il y a un peu tout ça dans ce faisceau des vivants, Valérie Zenati.
Oui, je crois qu'il y a tout ça, et il y a peut-être une question qui m'est apparue d'une manière nouvelle, parce que je pense que pendant longtemps, en tout cas quand j'étais jeune et que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, l'une d'elles c'était pourquoi la vie, pourquoi est-on sur Terre, pourquoi vivre. Et il me semble avoir vécu longtemps avec cette question. Et avec ce livre, j'ai peut-être compris que la vraie question qu'Aaron lui-même a exprimée, que j'ai fait mienne, en tout cas au moment où je l'ai écrit, et puis j'espère depuis aussi, c'est plutôt comment vivre. Et passer du pourquoi au comment, ça ouvre beaucoup de perspectives.
Comment vivre, ça peut permettre aussi de répondre à pourquoi, surtout quand on passe des épreuves, comme c'est le cas d'Aaron Appelfeld, quand on arrive à répondre au comment, et quand on a éprouvé aussi la difficulté du comment, est-ce qu'on touche pas quand même un peu au pourquoi ?
Oui, certainement. Mais disons que la nécessité vitale de la question, pour moi, après la perte d'Aaron Appelfeld, parce que ce livre s'est imposé à moi au moment où il a disparu, au moment de sa mort, dans la nuit du 3 au 4 janvier 2018, je pense avoir senti que le seul espace possible pour moi, c'était celui du livre. C'est-à-dire que ce qui nous reliait à Ron et moi, c'était le fait qu'il était lui et que j'étais moi, on va dire. Mais aussi, c'est un écrivain dont j'ai traduit 11 livres et dont j'ai entrepris de tout traduire. Et le seul lieu possible après sa disparition, c'était un lieu où pouvait intervenir l'écriture d'une part et la traduction d'autre part, donc un livre. Et donc là, ça a été plus le comment, comment vivre. C'était comment vivre sans lui, comment vivre sans cette présence qui m'accompagnait depuis l'année 2003. La première réponse, c'était à travers le livre, l'écriture du livre. Et ensuite, évidemment, je pense avoir effleuré quelque chose du pourquoi.
Mais alors, ça veut dire, Valérie Zenati, que les choses vont encore plus loin que je ne pensais. Elles vont jusqu'au comment vivre d'une manière très profonde sur l'expérience de l'écriture. Elles rejoignent quand même la question du pourquoi sommes-nous sur Terre. Mais je sais que c'est un peu violent, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même repartir aussi, même pour dire qu'il ne faut jamais s'y limiter, des faits, au moment où Aaron Appelfeld disparaît, donc vous avez une peur, c'est même de mettre la radio, c'est d'entendre sa vie résumée, comme vous dites de façon très forte. Je ne veux pas entendre sa vie résumée, parce que résumée, ça veut justement dire comme si c'était des faits. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même, pour nos auditeurs aussi, et parce que tout quand même vient de ce noyau, à condition de ne pas s'y résumer, Est-ce qu'il ne faut pas quand même un peu raconter sa vie pour voir tout ce que cette vie, tout ce sur quoi cette vie peut résonner? Est-ce qu'on n'est pas obligé quand même, malgré tout, de redonner quelques repères?
Vous devez avoir raison, Frédéric Worms. Donc je peux m'y plier volontiers. Je ne voulais peut-être pas l'entendre à ce moment-là parce que dans votre introduction, je crois, vous avez dit qu'une vie ne se résume pas à des dates. Enfin, on ne peut pas figer une vie uniquement entre 1932 et 2018, même si quelque chose a commencé en 1932.
Ça, c'est ce qu'il y a sur les pierres.
Voilà, exactement. Et même si donc voilà, quelque chose a commencé en 1932 à Tchernovitz, et ce quelque chose-là, c'est la vie d'un petit garçon qui qui s'appelait Erwin et qui ne s'appelait pas encore Aaron, qui est né, qui était le fils unique d'une
famille. Donc Tchernovitz, une ville en Ukraine.
Oui, aujourd'hui voilà. En Ukraine, à l'époque en Roumanie, et autrefois encore la ville la plus à l'est de l'Empire austro-hongrois. Et dans cette ville qui est un peu une petite sœur jumelle de Prague, par exemple, on trouvait une communauté juive qui représentait plus de la moitié de la population de la ville. À certains moments, je crois que la population est montée à 70 000 habitants sur 120 000. Et on retrouve notamment, parce que c'est un des livres qui m'a accompagnée pendant l'écriture de ce livre, les écrits du ghetto de Tchernovitz, d'autres poètes et écrivains comme Paul Celan, Rosa Auslander, Ilana Shmueli sont nés à Tchernovitz. Mmh. Et c'était une ville, selon Rosa Auslander, où il y avait que, on a l'impression qu'il n'y avait que des philosophes, des poètes, des musiciens juifs, des écrivains, des gens pour qui la vie matérielle n'avait pas beaucoup d'importance et pour qui il était beaucoup plus important de passer la nuit à parler philosophie, littérature, à jouer de la musique. Et c'est dans cette ville-là qu'est né Aaron Appelfeld, qu'il a commencé sa vie. Et puis ensuite, la guerre lui a tout arraché. Et l'a arraché à cette ville-là. Et il a vécu ses années de guerre en étant un enfant à moitié sauvage, livré à lui-même et à des prostituées, des brigands, etc. Puis ensuite, à l'âge de 13 ans, il est parti vivre en Israël. Il a découvert l'hébreu. Et là, voilà, je ne résume pas, je donne plus quelques éléments du commencement.
Oui, ce qui est très beau, c'est que on voit votre réticence, votre résistance même au fait de résumer, c'est-à-dire de jalonner les événements auxquels on résume souvent son parcours, sa vie, et même la façon très forte dont vous avez insister sur le lieu, la date de naissance, le contexte, montre que voilà, déjà dès la première date, dès 1932, on sent bien que naître petit enfant juif de Tchernovitz en 32, il va se passer quelque chose, dans
bien
son
sûr.
Cas c'est quelque chose de terrible, mais déjà vous déployez tout un monde autour, parce que précisément, faut pas réduire, résumer, replier la vie.
Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui encore, moi par exemple, je refuse de qualifier ce livre d'hommage, même si certains le font et en parlent très gentiment, donc je ne leur en veux pas, mais pour moi ce n'est pas un hommage et je serais incapable, de rendre hommage de manière classique, parce que je pense avoir connu Aaron Appelfeld, mais tout en étant consciente qu'une grande partie de sa vie m'a échappé et m'échappe toujours. Je peux pas résumer ce que je n'ai pas connu. Et j'ai eu aussi l'impression après sa mort que toute tentative, même d'expression orale, était un peu vouée à l'échec et frôlait l'approximation ou le mensonge. Donc voilà, je peux parler d'éclat un peu épars, mais pas d'une unité qui serait celle de sa vie.
Mais là, vous le respectez profondément, Valérie Zenati. D'ailleurs, le premier livre de lui que vous avez traduit porte un titre très significatif, quand même, « Histoire d'une vie ». C'est-à-dire, c'est comme si Aaron Appelfeld, qui avait raconté dans ses romans certains événements, transposé certains événements de sa vie, avait lui-même à un moment senti la nécessité de la raconter, mais même là, il la dédouble, c'est-à-dire il y a la vie comme suite de faits, alors on va en dire quelques autres quand même pour nos auditeurs aussi, c'est-à-dire cette naissance, vous avez parlé de l'arrachement, je pense que mystérieusement, il y a quand même un drame qu'il a vécu, il a entendu le cri de sa mère assassinée dans la maison, il est ensuite été déporté avec son père, donc il y a ces événements qui jalonnent cette vie, mais justement, même lui, il a senti ce besoin à un moment de la raconter, disons factuellement, c'était pas une fiction. Et en même temps, c'était dédoublé déjà. Histoire d'une vie. Comment vous avez entendu tout de suite ces deux mots, histoire et vie? Est-ce que c'est à la fois cette littéralité et puis en même temps déjà cette reprise par quelqu'un, par une imagination, par un rêve, par une écriture?
Alors justement, d'abord, Frédéric Worms, j'ai entendu effectivement histoire et vie, parce qu'en hébreu, on ne dit pas histoire d'une vie.
Ah.
On dit histoire, vie et vie.
Enfin, on dit même pas. Il y a rien entre les deux.
Voilà.
Qu'est-ce qui les relie? C'est histoire vie ou vie histoire?
Oui, c'est. Alors le mot m'échappe en français parce que je pense
tout à coup
en hébreu. Non mais je vais le retrouver, mais c'est en fait c'est un mot qui est composé de deux mots et c'est un état construit. Voilà, c'est un état
grammaticalement
construit.
Vous voulez
oui,
dire
tout à fait. D'accord. Oui, c'est un état construit et donc un état construit c'est deux mots accolés qui forment une entité. et qui prennent un sens nouveau. Et donc en hébreu, c'est Sipour Chaim, sachant de surcroît que Chaim en hébreu n'est pas la vie, mais les vies. La vie n'existe pas.
C'est un pluriel, voilà, vous voulez dire. Oui. Ah, d'accord.
Il n'y a pas de singulier, il n'y a pas de vie singulière en hébreu. Il n'y a que les vies. Donc les vies ou les vivants, c'est le même mot.
Comme dans le titre de votre propre livre. Finalement.
Voilà, exactement. Et donc, Sipour Chaim, c'est presque, c'est histoire d'une vie, mais en hébreu, je l'entends presque comme un titre qui ne parle pas d'un être en particulier, mais qui saisit quelque chose de plus vaste dans la vie ou dans l'histoire des vivants.
Expérience de vie au pluriel ou bien récit de vie, tout ça au pluriel ?
Oui, oui. Oui, oui, plutôt.
Mais quand même, il y a l'idée quand même que dans ce texte, autour de ce noyau, il y a quand même tout de suite beaucoup de choses. Dans ce texte, disons que dans le mot histoire, il y a quand même l'idée qu'il raconte un peu quand même sa vie, qu'il ne passe pas par des autres modes d'écriture qu'il a employés dans ses romans ou quel que soit le nom qu'on leur applique.
Non, parce que ça peut être une fiction.
Ah, ça peut être une fiction.
Ça peut être une fiction. Et pour Aaron, Histoire d'une vie était presque une fiction au même titre de ses autres livres. Parce qu'il avait parfaitement conscience du fait qu'il se souvenait de certaines choses et que le souvenir était tout sauf quelque chose de figé, qu'il était plus en proie à une revisitation permanente de son histoire. Et moi-même, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais j'ai compris à quel point on ne pouvait même pas se fier à ses souvenirs, à ce qu'on croit voir. Récemment, quand je suis allée à Tchernovitz, je ne sais pas s'il était prévu qu'on en parle ou pas.
Il est absolument prévu qu'on en parle. Alors, j'avais prévu, pour tout vous dire, Valérie Zenatsi, de partager le temps de l'émission comme votre livre, dans une première partie autour d'Aaron Appelfeld, de sa vie, de la manière dont il la reprend dans son œuvre, dans ses interviews aussi, dans sa réflexion sur son œuvre. Vous traduisez encore dans la première partie, même si déjà vous êtes très présente dans cette première partie, évidemment. Vous réagissez à sa disparition et à beaucoup d'autres choses. Et puis dans la deuxième partie, c'est votre aventure à vous qui sort.
Alors on va laisser de côté peut-être...
Raconter votre aventure tout de suite.
On va laisser de côté justement pour tout à l'heure. Il faudra juste, je pense, vous raconter quelque chose qui est précisément arrivé là-bas. Non, et alors ce que j'aime beaucoup justement dans cette façon d'être dans les deux parties, ça me rappelle autre chose qui a à voir aussi avec l'hébreu, parce que l'hébreu, c'est évidemment la langue qui nous lie, qui nous a reliés et qui nous lie. Et c'est une langue qu'Aaron a découverte à l'âge de 13 ans et demi, et moi aussi, et qui, je crois, nous permettait à tous deux, de manière très distincte, évidemment, de penser le monde d'une manière un peu nouvelle, puisque ce n'est pas la langue avec laquelle nous avons découvert le monde. Mmh. Et sur les deux parties, sur l'écart entre la réalité et la fiction, sur toutes ces choses dont nous parlons, je me suis fait la réflexion récemment qu'en hébreu, l'alphabet est consonantique, donc il n'y a que des consonnes et pas de voyelles.
Elles ne sont jamais écrites.
Et elles n'existent pas en tant que lettres. Et moi j'aime bien me poser des questions. Quand je suis pas invitée comme aujourd'hui par exemple, je me pose des questions.
C'est moi qui vous les pose. Voilà. Désolée aujourd'hui.
Mais il y a d'autres moments, je me pose des questions toute seule et je me suis interrogée sur la signification des mots consonne et voyelle. Et en hébreu, la consonne c'est itsour, c'est-à-dire ce qui est à l'arrêt, ce qui est figé. Et la voyelle c'est tnoua, c'est-à-dire c'est le mouvement. Et donc la voyelle c'est ce qui va donner le mouvement à ce qui est figé. Et on pourrait dire la vie. Et je pense, pour revenir à l'histoire d'une vie, qu'il y a dans ce livre, qui bien sûr a un matériau autobiographique, mais il y a les deux. Il y a ce qui est resté peut-être figé dans la mémoire, et il y a la vie insufflée par le récit et par la langue même qui a permis de raconter cette histoire-là.
Alors là, on est évidemment au cœur des choses, Valérie Zenatsi, puisque il me semble que ce qui vous permet à vous de superposer, c'est un mot que vous employez à un moment, vous dites nos voix se sont superposées, de superposer votre vie à la sienne, c'est que sa vie, justement, ça n'était pas seulement des faits, ces faits même parfois terribles, et puis après cette arrivée en Israël et cette œuvre qui se construit, faits qui seraient coupés des faits des autres vies, mais comme sa vie, même dans la mémoire, est déjà un rêve, une écriture, du coup, nos vies peuvent se greffer sur elles, puisque votre vie aussi est une aventure et une écriture. Est-ce que c'est pour vous, c'est là que se passe la rencontre entre les vies ? C'est-à-dire, si c'était des faits, comment les faire communiquer ? Mais comme il y a cette part d'imagination et de rêve...
Tout à fait. Je pense que vous le dites très bien. Je pense que... Quand on rencontrait Aaron Appelfeld, on avait conscience qu'on avait en face de soi quelqu'un qui était si profondément relié à sa propre vie qu'il offrait un miroir d'une clarté et d'une sensibilité absolue. Et toute personne qui le rencontrait avait aussi l'impression de se rencontrer elle-même. Et je ne parle pas que de moi là. Moi, j'ai essayé de saisir ça quand il est mort, mais de son vivant, je l'ai vu chaque fois que je l'ai accompagné partout en France. Ce phénomène se reproduisait, et donc bien sûr que je pense que les vies qui se croisent et les relations entre les vivants, c'est aussi ces reflets qui parfois peuvent être justement, ils ne sont pas aveuglants. Ils sont d'une grande clarté, mais ils ne sont pas aveuglants parce qu'ils permettent de voir ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à la rencontre.
C'est-à-dire que le rapport très particulier qu'Aaron Appelfeld avait à sa vie permet à chacun, et vous l'avez expérimenté, donc Valérie Zenati, d'avoir un autre rapport à sa propre vie.
Oui.
Et d'accéder à la sienne.
Oui. Parce qu'il, en fait, il avait une présence extrêmement forte à lui-même et aux autres. Et en des dizaines et des dizaines de rencontres tout au long de ces années, je ne l'ai jamais vu, mais quand je dis jamais, c'est vraiment jamais, je ne l'ai jamais vu distrait ou inattentif. Jamais. Il était toujours, toujours d'une attention extrême aux moindres personnes, aux moindres détails. Et donc cette présence qui était quand même très rare, je pense, renvoyait chacun à ce que peut être une présence à soi-même et aux autres.
Mais alors c'est une présence, une rigueur, une précision qu'on retrouve dans tous ses écrits, dans toute son œuvre, mais en même temps toujours avec cette part de rêve et d'imagination. Et c'est vrai que ce que vous dites est présent dès le début d'Histoire d'une vie, pardon, je le cite, et on reviendra ensuite au faisceau des vivants, mais où il dit « La mémoire, tout comme le rêve, saisit dans le flux épais des événements certains détails, parfois insignifiants. » Je saute quelques mots. Et il dit ensuite « Tout comme le rêve, la mémoire tente de donner aux événements une signification. » C'est-à-dire que la mémoire, ou le rêve, ou l'écriture, est en fait inévitablement une médiation dans le rapport à sa propre vie. Il n'y a pas la vie directement. Est-ce que vous pensez, Valérie Zenati, que ce passage par la mémoire, par le rêve, par l'écriture, valait pour lui d'une manière tout à fait générale, comme vous venez de le dire, ou bien était quand même lié à l'indicibilité, le côté terrible de certains événements qu'il avait vécu. Est-ce que c'est justement le fait que cette vie-là ne peut pas être affrontée peut-être directement et imposait ce détour qui lui a permis d'inventer cette philosophie de la vie, je dirais?
Alors, je pense que c'était présent chez lui avant les événements, et surtout... vous l'avez, je pense, effleuré tout à l'heure, Aaron n'a pas eu le sentiment de ne vivre que des choses terribles, y compris pendant la guerre. Et il le disait lui-même. D'abord, bon, vous savez, Frédéric Worms, je pense qu'il refusait l'étiquette écrivain de la Shoah, parce qu'il jugeait que c'était impossible, que personne n'avait été le témoin de l'extermination des Juifs d'Europe. Chacun avait été victime et témoin d'événements très précis qui tous, mis bout à bout, avaient constitué l'entreprise d'extermination. Et donc, lui a vécu la guerre, déjà il a vécu enfant, avec l'incompréhension d'abord. Que pouvait avoir un enfant face à ce qui se passait, dans l'absence totale d'une grille de lecture des événements, autre que ce qu'il voyait, ressentait, percevait. Et parfois, ce qu'il voyait, c'était, comme il le disait, un cheval, un chien qui lui offrait sa fourrure pour se réchauffer. Enfin, il disait souvent, j'ai vécu la guerre comme si c'était une sorte de conte, parfois un conte cruel, mais quelque chose qui rappelait les contes et les légendes. Et donc, tout ça pour dire que ça, c'était d'abord sa perception, et aussi, par rapport à la médiation du rêve et de la littérature, ce que je pense, c'est qu'il avait conscience que la vie, si on ne cherche pas à lui trouver au moins un sens, voire plusieurs, c'est un chaos. On ne sait pas très bien quand ça commence, quand ça se finit et pourquoi. Donc, il cherchait, oui, à remettre de l'ordre là où il n'y en avait pas.
C'est très frappant ce que vous dites dans votre livre, dans Le Faisceau des Vivants. Vous traduisez encore des choses inédites, des entretiens, des émissions vidéo, et je trouve que c'est une admirable continuation de toute votre traduction de ces écrits. Vous citez effectivement ces phrases mystérieuses où il dit que dans ces épreuves terribles, il y avait aussi beaucoup d'amour.
oui.
que dans les supplices imposés à des familles, il y avait en même temps, pour les enfants surtout, un prisme qui était celui de l'amour.
Oui.
Et que sa question, je cite là aussi une phrase que vous traduisez d'un entretien avec une journaliste en Israël, je crois, et vous le commentez comme ça. Il bredouille légèrement, les mots s'entrechoquent dans sa bouche. Il a soudain cette expression de quête profonde et cette voix que je connaîtrai dans 30 ans, parce que vous traduisez un entretien 30 ans avant votre propre rencontre avec lui. Et là, c'est à Aaron Appelfeld qui parle. La question qui me préoccupe toujours, c'est que m'est-il arrivé ? Pas qu'est-il arrivé à l'extérieur ? C'est juste pour revenir aussi sur oui. le rapport à la Shoah, à l'événement. Il est là, pleinement là, indubitablement là. Et en même temps... C'est d'abord ce qui est arrivé à quelqu'un, à ce petit garçon, à Aaron Appelfeld. Et il y a à la fois cette précision et cette subjectivité. Et il
Total.
Faut les deux.
Oui, bien sûr, certainement. Je crois que l'ébranlement avait été si grand pour lui enfant qu'il lui fallait au moins toute une vie et au-delà pour essayer de répondre à cette question. Que lui est-il arrivé ?
Mais donc il y a deux indicibles. Il y a l'indicible de la Shoah comme telle, devant lequel il s'arrête pudiquement
oui.
en disant c'est impossible.
Exactement.
Et puis il y a un autre indicible de ce qui lui est arrivé. Et celui-là, il faut quand même l'affronter un petit peu.
C'est exactement ça, Frédéric Worms.
Et il y arrive, vous pensez, Valérie Zenatsi ?
Il y est arrivé, je pense.
De livre en livre.
Il souhaitait continuer, mais il a écrit plus de 40 livres et il y a de la matière, oui.
Et c'est vous qui continuez aussi maintenant. Vous nous avez apporté pour jalonner cette conversation une chanson qui est en plus d'une langue.
Menschenleben ohne Groschen, ohne dire Geld. Mit Gur nicht in die Taschen und frei in die Welt. Ha doch Leben ohne Liebkeit, du's kann Gur nicht sein. Du's kann Gur nicht sein. Mi kann Leben ohne Masel, es ist nicht a Feile. Mir kann sein a Schlemasel und treffen die Zrie. Ha doch Leben ohne Liebkeit, du's kann gar nicht sein. Du's kann gar nicht sein. Du siehst doch, as ist Krankheit, lieber vor dem ersten Blick. Du siehst doch, as ist Schwachheit, wenn sie geht mir a Kick. Richtig. Mir kann leben wie a Ganef. Wie ein Schnorrer, ein Zar und schlecht war bringe du's Leben nicht sein Kanach. Ha doch Leben ohne Liebkeit, du's kann gar nicht sein. Du's kann gar nicht sein. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, on ne le pourrait pas.
France Culture, Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, quelle nouvelle du vivant. Toujours notre première discussion avec Valérie Zenatsi, avec qui nous parlons de la vie et du rêve de sa propre vie, et du souvenir de sa vie par Aaron Appelfeld, mais aussi de la propre vie de Valérie Zenatsi et de son livre Dans le faisceau des vivants. Alors Valérie Zenatsi, il y a toujours plus d'une langue. Il n'y a jamais seulement les faits de la vie, mais l'imaginaire de la vie.
Oui.
Et là, vous venez nous faire entendre une chanson un peu mystérieuse, qui commence en yiddish, qui se termine en français. Peut-être c'était l'inverse, en fait, historiquement.
Tout à fait. C'est une chanson française, chantée d'abord par Bourvil, et puis ensuite Marie Laforêt, qui s'appelle La Tendresse, et qui a été traduite là par Boris Bergman et Simon Livran, et qui est chantée par Eric Slabiak, le chanteur des Yeux Noirs, et violoniste, avec lequel et par lequel commence mon livre, d'ailleurs. Et j'aime énormément entendre son accent français dans le yiddish. J'aime l'idée d'une chanson française traduite en yiddish. Vous savez peut-être, Frédéric Worms, que même la Marseillaise a été traduite en yiddish, et il en existe une version. Et moi, je me pose souvent la question... Mais
heureusement,
comment...
tout peut être traduit dans tout, et
tout
il faut...
Tout peut être traduit, oui, en yiddish, en tout cas.
Oui.
Non, mais souvent, je me demande comment font les gens qui n'ont qu'une langue, qui ne vivent qu'avec une langue. C'est pas du tout une interrogation critique, mais une vraie question. Moi, je vis au moins dans deux langues, et j'aime beaucoup cette façon de... cette reprise qui peut exister d'une langue à l'autre.
Jacques Derrida disait toujours « plus d'une langue ».
Ben voilà.
Plus d'une, mais que ce soit un patois local, la langue maternelle est aussi une autre langue dans la langue. Et il y a toujours plus d'une langue dans la langue.
Je le rejoins sur cette chose-là au moins.
Donc Valérie Zenati, vous venez de parler du début de votre livre. C'est vrai qu'il commence le 31 décembre 2017. C'est même ses premiers mots. Vous étiez allé écouter au Théâtre de Versailles ce groupe dont on vient d'entendre une chanson. Dans ce livre, dans le faisceau des vivants, ça n'est pas du tout seulement, j'allais dire, l'écho d'Aaron Appelfeld, c'est aussi votre propre vie à l'annonce de sa mort. C'est pas seulement un deuil d'ailleurs, c'est plutôt l'effet de cette vie et de cette disparition sur votre vie et que vous racontez, que vous avez besoin d'écrire. Ce livre, c'est une manière de vivre encore cet événement.
Exactement, exactement. C'est-à-dire que souvent, on pose la question aux écrivains sur l'écriture ou la vie. Je ne sais pas si c'est une question qui se pose vraiment, parce que...
Comme on dit, la bourse ou la vie.
Voilà, c'est ça. Parce que là, c'était l'écriture pour saisir la vie, et ensuite la vie pour aller plus loin dans l'écriture. Et je pense que toute perte... et toute rencontre et toute naissance suscite des ébranlements qui peuvent parfois affecter très profondément et qui chez moi affectent toujours le langage. Je me souviens m'être retrouvée presque aphasique.
Vous dites que vous bredouillez, que vous voulez plus entendre aussi certains mots, certaines façons de parler.
Tout à fait, tout à fait. Alors je ne voulais plus entendre parce que j'entendais en moi la voix d'Aaron Appelfeld. Alors j'ai conscience que ça peut donner le sentiment d'être un peu exalté. Mais un jour, quelqu'un m'a dit non, mais c'est normal, quand on est la voix de quelqu'un dans une langue, quand on la porte et qu'on le traduit, c'est un peu normal de l'entendre. Et donc oui, j'entendais résonner la voix d'Aaron Appelfeld, et quand je l'entendais pas, j'allais la chercher, avec les traductions que vous avez citées tout à l'heure. Et puis surtout, j'avais l'impression qu'il fallait que j'écoute ce qui était en train de se passer en moi. Comment cette disparition résonnait, et qu'est-ce qu'elle convoquait de moi, de l'ébranlement magnifique qu'avait été la rencontre avec lui.
Est-ce que vous cherchiez, comme lui, à répondre à la question qu'on a citée tout à l'heure, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'est arrivé à cette mort et dans cette rencontre, et à quoi elle m'a permis d'accéder? Est-ce que c'est aussi ce genre de question qui vous a poussé?
Je pense que c'est exactement ça. Vous le dites très bien. Je pense que c'est ça qui m'a guidée. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et avec la conscience d'être témoin presque d'un événement très très important. La mort d'Aaron Appelfeld, ça ne pouvait pas être juste la mort de quelqu'un. C'était un événement pour moi dont je voulais tenter, parce que c'était un verbe qu'il utilisait beaucoup, tenter de prendre la mesure sur ce que ça signifiait pour moi, dans ma propre vie, dans ma langue, dans mon rapport. Tout a été réinterrogé. Mon rapport à l'écriture, aux mots, à la traduction, au français, à mon passé, à mon enfance. Je crois avoir revisité en quelques mois, consciemment et inconsciemment, tout ce qui a fait que cette rencontre avait eu lieu.
Alors, il y a quelque chose d'intime, là, Valérie Zenati, puisque vous aviez eu la chance de le rencontrer, de le fréquenter, de devenir ami intime. Mais en même temps, il y a quelque chose aussi d'universel et qui n'est même pas du tout réservé à ceux qui seraient proches de ceux qui auraient vécu les événements qu'a vécu Aaron Appelfeld, puisque dans son écriture même, par son propre rapport à lui-même, comme on l'a dit, il ouvre à tout le monde l'expérience de ce qu'a été le génocide, l'expérience aussi d'une vie individuelle à travers cela. Quand vous décidez, c'est la deuxième partie du livre que j'avais gardé un peu en réserve, donc quand vous décidez dans la deuxième partie du livre, vous racontez, vous avez décidé, ça vous a été suggéré d'ailleurs par une mystérieuse coïncidence le jour même où vous partiez en Israël après sa mort, quand vous décidez de revenir sur les lieux où lui-même était né, est-ce que c'est seulement intime? Est-ce que ça n'est pas aussi un voyage dans l'histoire, un voyage qui ouvre cette vie sur toutes les autres vies et sur le siècle?
Ça fait beaucoup,
même vous allez
attirer. Oui.
C'est pas ma faute, j'allais dire, c'est dans la chose même.
Alors peut-être, c'est au lecteur de... Oui, peut-être de me le dire. Je ne sais pas si vous le pensez, que ça ouvre...
Je pense inévitablement, quand on retourne à Tchernovitz, qui a changé de nom,
Oui.
C'est pas seulement par l'émotion de pour celui qui y est né, c'est pour aussi rendre hommage au témoignage à tout un siècle.
Peut-être. Je crois que ce qui s'est imposé à moi à un moment donné, c'est un mouvement. C'est le mouvement du livre et peut-être un mouvement qui est à la fois voilà le mouvement du livre et de ma propre vie pour le coup. C'est que j'ai senti à un moment donné que je me trouvais vraiment, je le dis au milieu du gué, entre la date de la mort d'Aaron Appelfeld et sa date de naissance, puisqu'il est né le 16 février. Et là, j'ai eu vraiment, c'était une période de grande acuité, de grande sensibilité pour moi, dans laquelle j'avais vraiment le sentiment d'être prise entre... Voilà, pas entre la vie et la mort moi-même, mais entre quelque chose qui allait du côté de la vie et quelque chose qui allait du côté de la mort. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision d'aller à Tchernovitz pour son anniversaire, en me disant que pour ce premier anniversaire sans lui, c'était le seul lieu où je pouvais être.
Bien sûr, il y a cette dimension intime que vous venez de raconter, comme vous le faites dans le livre, de façon très, très profonde. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même encore une autre dimension ? Je vais poser la question autrement.
Oui.
En me disant que, en tout cas, moi, c'est ma propre relation à son œuvre. Je peux y aller aussi ses romans, enfin, ses livres. Vous en avez traduit une grande partie, mais il en reste beaucoup à traduire. J'ai toujours l'impression que, précisément parce que il parvient à faire sentir la façon dont il a vécu cette expérience, il nous permet à nous, pour qui c'est un fantasme permanent, ou un souvenir, ou un cauchemar, ou un rêve. Et quand je dis nous, c'est, je pense, très largement ressenti. C'est la toile de fond de notre époque, finalement.
Bien sûr.
Le génocide et tous les autres crimes qui l'ont répété ou tragiquement imité, il nous permet d'y accéder. Donc quand même, est-ce que pour vous, la lecture d'Aaron Appelfeld, ça n'est pas aussi une manière d'affronter cet événement, subjectivement ? Et quand vous allez en 32, j'allais pas en 32, mais quand vous allez en 2018
beaucoup,
à Tchernovitz,
oui.
qui ne s'appelle plus Tchernovitz, est-ce que ça n'est pas quand même une manière de dire votre gratitude à son égard aussi pour permettre d'aller là, d'affronter ce continent, cette Europe, ces événements ?
Aussi, parce que je suis née à Nice et sur une rive méditerranéenne qui regardait plutôt vers le sud et vers l'autre côté de la Méditerranée et de parents qui venaient de l'autre côté de la Méditerranée. Et pourtant, il y a quelque chose en moi qui est profondément européen et plus encore de cette Europe-là. C'est-à-dire que quand je pense l'Europe, je pense plus à l'Europe de l'Est qu'à l'Europe de l'Ouest. Et il y a cette attirance vers, peut-être vers Tchernovitz, mais vers la voilà, Tchernovitz en tant que lieu et en tant que tout ce que vous
venez d'écrire. C'est aussi parce que le sens même du mot Europe est marqué par ces événements.
Oui, certainement. Oui, bien sûr, je pense. Mais et aussi par une culture, par une littérature, par une musique qui me parle profondément. Mais je crois qu'en voulant être à Tchernovitz, je voulais surtout éprouver le verbe être. Voilà, c'est-à-dire que et c'était d'abord ça. Je voulais pouvoir dire je suis à Tchernovitz. Et aussi, pour moi, à partir de ce moment où j'ai entrepris ce voyage, j'ai eu le sentiment que je passais, donc entre la première et la deuxième partie du livre, que je passais d'une période durant laquelle j'avais essayé de saisir le réel et la vie sans Aaron, à un moment où j'entrais presque dans une fiction. Je ne sais pas pourquoi, à partir du moment où j'ai pris ce train pour aller à Tchernovitz, de Kiev, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une fiction. Alors, mon idée, c'est que la fiction, c'est ce qui était inenvisageable. C'est quelque chose, pour moi, quand on dit « j'ai l'impression d'être dans une fiction », on vit quelque chose qu'on n'avait pas envisagé. Et
là, il fallait que ce soit réel, au contraire.
Il fallait que ce soit réel. Mais ce que je voulais dire, parce que c'est une découverte que j'ai faite récemment, il y a quelques jours, un ami m'a parlé d'un passage qui est dans le livre où je raconte que je descends vers la rivière.
La rivière Prout.
Voilà,
Prout,
voilà, il y a plusieurs prononciations. Et qui est une rivière extrêmement présente dans les livres d'Aaron et qui est très, très importante pour lui. Parce que l'eau est importante, parce qu'il disait on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve et peut-être pas même une seule.
Donc, à quoi vous objectez quelque chose dans
voilà,
le livre, mais on
oui.
laissera les lecteurs le découvrir.
Oui, et donc je tenais à tout prix à voir cette rivière. Et je me suis éloignée de la ville, j'ai commencé à entrer dans une sorte de lieu vide de toute vie, justement. Mm-hmm. C'est-à-dire, voilà, il y avait des bâtiments, des usines désaffectées, des bâtiments d'habitation, de bureaux, et il n'y avait personne, absolument personne, et aucune vie. Et puis à un moment donné, j'ai vu des chiens sauvages. Bon, je raconte ce passage, je laisse, voilà, les gens le liront ou pas. Et un ami récemment m'a dit, mais c'est un lieu absolument incroyable, est-ce que tu as pris des photos ? Je lui ai dit, je crois en avoir pris une ou deux dans un état second. Je lui envoie une photo avec un animal, donc, que je croyais être un chien. Et au moment d'agrandir la photo et de lui envoyer, je m'aperçois que c'était un loup.
Un loup ?
C'était pas un chien.
Un véritable loup.
Et je m'aperçois que je me suis retrouvée face à une meute de loups et non pas de chiens sauvages.
Oui, parce que vous parlez de chiens dans le texte.
Et ça, c'est une découverte. Voilà, c'est une découverte que je viens de faire il y a quelques jours. Et qui, pour moi, résume peut-être quelque chose de ce qui est insaisissable dans la vie et dans l'écriture. Il y a ce qu'on croit voir et qui pourtant est encore autre chose.
Mais alors précisément,
et c'est ce qui s'est passé à Tchernovitz.
Pour revenir à cette ouverture de la vie sur nos vies, sur la manière dont nous la vivons et qui en fait rejoint ensuite le réel, il y a effectivement, il y a comme s'il y avait une sorte de chasme, de renversement. Quand Aaron Appelfeld vivant disait « Je suis né à Tchernovitz en 1932 », ça ouvrait une part de rêve pour vous et vous pouviez le prolonger comme vous aviez fait dans un précédent livre, « Mensonge », en disant aussi, je suis né à Tchernovitz, mais là, peut-être, sa disparition vous obligeait, vous, Valérie Zenati, à pouvoir le dire réellement. Je suis à Tchernovitz pour réouvrir une part de rêve pour nous tous aussi, pour dire, on peut encore y être et repartir dans cet entre-deux. Et il y a ce passage, d'ailleurs, où vous dites que vous vouliez dire je suis, mais en même temps, vous êtes saisi aussi par le risque la sensation d'un néant. Vous dites, tellement saisissant cette expérience d'y être que c'est presque une expérience limite.
Oui, et d'ailleurs, j'y repensais récemment. Je dis je suis, et en même temps, en hébreu, je n'aurais pas pu dire je suis, puisque le verbe être n'existe pas au présent. Et je pense avoir. C'est quelque chose qui m'a frappée quand j'ai commencé à apprendre l'hébreu. Le fait qu'on ne peut pas dire en hébreu
dire
je suis, on dit je.
Comment est-ce qu'ils traduiront Descartes alors? Bah, vous êtes traductrice, mais vous traduisez plutôt dans l'autre sens en général.
Sens.
Parce que Descartes dit quand même je pense. Il ne dit pas d'ailleurs donc je suis, mais il dit je pense, virgule, je suis.
Alors en hébreu, c'est je pense, virgule. Non, alors c'est je pense.
Je viens de
virgule,
penser, je vais être.
Ce qui signifie j'existe.
Oui, mais si on n'a pas de conjugaison au présent.
Non, on dit ce qui signifie j'existe, pas je suis.
Ah, c'est le je
verbe,
suis qui
le
n'existe
verbe exister
existe
au présent.
Mais le verbe être,
mais pas le verbe être.
N'existe
et
pas.
Et donc la phrase est d'emblée tronquée, puisque c'est je pense, donc j'existe. Ce qui n'est pas la même chose. Enfin, c'est à vous, Frédéric Worms, de nous expliquer la différence entre.
Ah, bah, pour moi, ce qui est très clair, c'est que, comme le disait Jean Val, être n'est qu'un verbe et que c'est un verbe tellement mystérieux qui donne lieu à des superstitions sur l'être. Par contre, la vie, c'est concret, l'existence, c'est concret. Être, c'est un piège. L'être est toujours un piège parce que c'est tellement vague que ça. Tout est, même les cercles carrés, les licornes. Du moment qu'on en parle, même ce qui n'existe pas, alors que l'existence justement est fragile, précaire, réelle.
Oui. Et je pense vraiment avoir fait l'expérience de ce « je sans être » à Tchernovitz. Mm-hmm. Quand j'ai trouvé récemment chez Kafka, parce que je me suis un peu rapprochée de Kafka, qui était un des maîtres d'Aaron, qui a beaucoup compté pour lui. Et dans son journal, il dit à un moment donné « je m'isolerai de tous, juste à en perdre conscience ». Et je pense que c'est ce mouvement-là qui m'a animée jusqu'à Tchernovitz, et que c'est en atteignant ce point extrême de l'ex-empire austro-hongrois, et peut-être de moi, et de cette absence de langage, puisque je n'ai pas parlé pendant ces deux jours, que j'ai pu trouver quelque chose qui me concerne très intimement, qui n'est pas écrit dans le livre, parce que ça n'a pas à être écrit, et que je ne pourrais pas formuler, mais qui m'a permis aussi de continuer, comme vous le disiez. Alors, si vous dites nous tous, bon, moi je dis moi, mais si nous sommes quelques-uns concernés, c'est déjà bien.
Vous dites forcément à la première personne, comme lui, comme chacun, mais justement, l'universel, ça n'existe pas non plus abstraitement. Et il y a entre vous et lui cet espace intermédiaire où chacun peut se reconnaître. Comme dans les récits d'Aaron Appelfeld lui-même, je pense que c'est aussi le propre de la littérature. Au fond, on n'a pas encore beaucoup parlé de l'écriture, de la littérature, mais ça ouvre cet espace où à la fois on suit quelqu'un, en même temps, on est reconduit à sa propre vie.
Je crois que je suis frappée par les réactions que je reçois depuis la parution de ce livre, parce que c'est presque la première fois que je reçois des lectures aussi intimes et différentes. Alors que j'ai eu l'impression vraiment, comme toujours d'ailleurs, d'essayer d'approcher une question qui me concernait très intimement, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de partageable. Et ce quelque chose, c'est ce qui m'a poussée à lire, avant même d'écrire évidemment, et qui me pousse à écrire, depuis bien longtemps maintenant.
Et quand Aaron Appelfeld parle de la vie, je voudrais y revenir un bref instant, parce qu'il en parle beaucoup. C'est pas juste une expression parmi d'autres pour désigner des événements ou histoires d'une vie, comme on parlait le mot vie. Il y a aussi tout un aspect très concret, Valérie Zenati, vous qui l'avez traduit. Il parle des goûts, des fruits, il parle de l'expérience de la neige, il parle de l'expérience aussi, évidemment, du corps, de la souffrance. Dans tous ses romans, il reprend un épisode de sa vie et c'est comme s'il creusait ce que ça nous apprend sur nous-mêmes, sur le corps, sur l'amour, sur la relation aux parents. C'est aussi une vie constamment environnée, relationnelle. Oui. Comment est-ce que vous voyez cette expérience de tous les aspects de la vie? Alors, parce que c'est, ne restons pas dans l'abstraction, être vivant, c'est aussi, et être dans le faisceau des vivants, c'est aussi tout ça, y compris la mort d'ailleurs.
Oui. Alors, je n'en ai pas encore fait l'expérience, en revanche, c'est aussi manger.
Fait l'expérience de la mort de l'autre.
Oui, tout à fait.
C'est ça l'expérience des morts dans nos vies.
Évidemment. Et... Non, mais c'était à moitié une boutade, mais bien sûr, que la mort, enfin, je crois, pour reprendre des buts, la nécessité d'écrire et de créer vient précisément du fait que les deux moments de nos vies, l'entrée et la sortie, nous échappent. Enfin, moi, c'est
dès le départ,
théorie.
On est loin de sa propre vie.
Voilà. On n'est jamais là au début. En tout cas, on ne s'en souvient pas. Et puis, on n'est pas vraiment là à la fin non plus. Et donc, il me semble que c'est cette absence de début et de fin qui fait qu'on a besoin dans nos vies de créer, d'écrire, de composer, de peindre, pour qu'il y ait un cadre, même, voilà, fictif, mais pour qu'il y ait le semblant d'un cadre. En revanche, on peut être témoin de la naissance des autres et de la mort des autres. Et là, il y a quelque chose qui nous est arraché, mais qui nous est donné aussi. Moi, j'ai fait l'expérience, je crois, avec la disparition d'Aaron Appelfeld, de quelque chose de total, où tout entrait, la peine, la joie, et aussi les sensations, parce que Aaron refusait d'être considéré comme un intellectuel. Et donc, c'était...
Il est toujours très concret, très précis.
Voilà. Pour lui, tout passait par les gestes, les paroles dites ou non dites, les mots, un café qui est donné après la guerre. C'est-à-dire que... Il faut voilà, dans des jours d'une stupéfiante clarté, par exemple, on sent ce que pouvait être un café après 4 ans de camp, par exemple. Et enfin, on sent la résonance de ce café-là dans une vie. Et moi, par exemple, à Tchernovitz, j'ai été absolument bouleversée quand j'ai pu goûter au plat que lui avait mangé. Et c'est seulement à ce moment-là, par le goût, que j'ai senti que quelque chose se passait en moi, bien plus que... En marchant dans les rues où j'étais presque anesthésiée parce que je ne savais pas ce qui se passait. Là, je savais que je mangeais le banouche et que le banouche, c'était un plat qu'il avait mangé enfant.
Alors, Des jours d'une stupéfiante clarté, c'est le dernier livre que vous avez traduit du vivant d'Aaron Appelfeld qui est paru en français juste après son décès. Donc, parmi les événements que vous décrivez dans Le faisceau des vivants, effectivement, on a le sentiment de vivre comme le narrateur de ses expériences, comme le personnage plutôt, ses expériences, la moindre sensation, le froid, le café, la rencontre, la mémoire même, le souvenir, l'apparition des souvenirs. Il y a toujours cette vie rêvée aussi, ses parents. Est-ce que vous pensez que c'est essentiel dans les expériences de nouveau assez dures qu'on vit, dans les expériences de risque de mort, y compris climatique, de se souvenir de ce sens-là du mot vie, de ce sens-là de l'expérience d'être vivant, que vous avez finalement mise assez fortement dans le titre de votre livre, dans le faisceau des vivants, c'est une expression biblique.
C'est dans une prière juive pour l'élévation de l'âme après la mort de quelqu'un, on dit que son âme soit tissée dans le faisceau des vivants.
Mais est-ce que ce faisceau des vivants, justement, c'est pas seulement des corps vivants ou des organismes, c'est un lien...
C'est profondément des relations, profondément des relations. Si je reviens à l'hébreu...
Entre des vivants singuliers.
Ah oui, en hébreu, le verbe « ami »,« chaver » vient du verbe « lechaber », qui veut dire « relier ». Donc, ça ne peut exister que par là. Et je crois que voilà, ce que j'ai essayé d'approcher là aussi, c'est ce qui nous unit tous, c'est-à-dire la conscience du caractère unique, sacré, magnifique de chaque vie, et en même temps l'humilité qu'on doit avoir face à tout ce qui nous dépasse.
Merci infiniment Valérie Zenati.
Merci à vous Frédéric Worms.
Matière à penser, quelle nouvelle du vivant. Ce soir, notre première rencontre avec Valérie Zenati, qui vient de publier Dans le faisceau des vivants aux éditions de l'Olivier, avec aussi Jean-Michel Bernaud, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Vort. Je vous donne rendez-vous demain avec Alexandre Jolia. À demain.